Chant 20e. Qu'un supplice nouveau s'ajoute à mon poème. Il sera le sujet de ce chant, le 20e, de mon premier cantique, aux damnés consacrés. Tout entière, déjà mon âme est étendue, sur la vallée ouverte, à mes pieds étendus, chant inondé de pleurs, d'angoisse dévorée. Et je vis par le val circulaire une fille qui venait en pleurant, d'un pas lent et tranquille, tel que sur la terre une procession. Tandis que dans le fond, plus bas plongeait ma vue, j'admirais que chaque ombre, étrangement tordue, en arrière du col inclinait le menton. Tout leur visage était retourné par derrière. Ils étaient obligés de marcher en arrière, car ils ne portaient plus devant eux leur regard. Par l'effet violent de la paralysie, un corps fut-il ainsi retourné dans la vie? J'en doute, et je n'en ai jamais vu pour ma part. Dieu te fasse tirer bon fruit de ce poème, ami lecteur. Mais juge en attendant toi-même, si je pouvais rester les yeux secs, les voyant de près ces malheureux, formés à notre image, si tordus que les pleurs coulant de leur visage ruisselaient au défaut des fesses en tombant. Ah, certes, m'appuyant à l'angle d'une roche, je pleurai, et si fort, que mon guide s'approche et me dit. As-tu donc aussi perdu l'esprit? La pitié même ici demeure impitoyable. Quel homme est plus impie, et lequel plus coupable? Au jugement de Dieu, celui qui s'attendrit. Allons, lève le front, vois cet homme de guerre. Sous les yeux des Thébains, il s'abîma sous terre. En vain, ils criaient tous. Où cours-tu t'engloutir en Pharaos? Pourquoi quittes-tu la mêlée? Il tombait, il roulait de vallée en vallée, jusqu'aux mains de Minos qui l'ont fait repentir. Regarde, au lieu du sein, c'est le dos qu'il avance, et pour s'être piqué de trop de clairvoyance, il ne voit qu'en arrière et marche à reculons. Voici Tirésias qui changea de nature, et d'une femme prit le corps et la figure, transformé tout entier de la tête au talon. Il lui fallut encore de sa verge magique, brisée de deux serpents, le couple symbolique, pour retrouver les traits et le sexe perdu. Et cet autre, tournant le dos à sa poitrine, c'est Arins, dans le monde lumineux qui domine les champs des Cararées à ses pieds étendus, au sein d'une carrière, il fixa sa demeure. Parmi les marbres blancs, d'où ses yeux à toute heure interrogeaient la mer et le ciel étoilé. Et cette femme-là, dont les tresses flottantes couvrent le sein caché de nappes ondoyantes et dont le corps parla d'un poil noir et voilé, ses manteaux qui longtemps errante et vagabonde se fixa dans les lieux où je naquis au monde. Pour l'amour du pays, or donc écoute un peu. Quand son père eut perdu la lumière et la vie, lorsque fut la cité de Bacchus asservie, par le monde elle erra longtemps, sans feu ni lieu. Un lac s'étend au nord de la belle Italie, au pied des monts alpins, bordant la Germanie, au-dessus du Tyrol. Son nom est le Bénac. De milliers de ruisseaux, le tribut magnifique, vient entre l'Apennin, Garde et Val Camonique, accroître et gonfler l'eau qui dort dans ce beau lac. Une île est au milieu que le flot environne. Les pasteurs de Brassia, de Trente et de Vérone peuvent s'y rassembler, ont le droit d'y bénir. Sur la pente où le bord s'abaisse davantage, s'élève Peschiera, fort puissant, dont l'ouvrage à Bergane et Brescia de rempart peut servir. C'est là que le Bénac épanche dans la plaine les flots mal contenus dans sa gorge trop pleine. Par les champs verdoyants, l'onde prend son élan. Elle change de nom en commençant sa course, prend celui de Mincio, fuit bien loin de sa source, et court à Governo, tombé dans les ridans. Mais trouvant en chemin une lande stérile, le fleuve y laisse une eau qui croupit immobile, marée empoisonnée dans les feux de l'été. Or, passant là, manteau cette vierge sauvage, aperçue au milieu du vaste marécage, un terrain sans culture, un sol inhabité. avec ses serviteurs, la Sibylle Thébaine se fixa là pour fuir toute rencontre humaine. Y pratiqua son art, y vécut, y mourut. Et plus tard, comprenant quelle forte défense offrait en cet endroit le marécage immense, la foule dispersée alentour accourut. Sur les eaux de la morte, on bâtit une ville. Et Manteau, la première ayant choisi l'asile, Mantoue on l'appela, sans autre appel au sort. Jadis, plus d'habitants en ont peuplé l'enceinte, avant que Pinamon, par une indigne feinte, eût joué Casalot, qu'on dupait sans effort. Te voilà bien instruit. Et si quelqu'un peut-être donne une autre origine aux lieux qui m'ont vu naître, nulle erreur ne pourra faire tort à ta foi. Ô maître, en tes discours, telle est ma confiance. Ils ont pour s'emparer de moi tant de puissance que tous autres seraient charbon éteint pour moi. Mais dis-moi, dans les rangs de la gent qui s'avance, ne distingues-tu pas quelque ombre d'importance? Car c'est là ce qui tient mes esprits éveillés. Lors il me dit, « Celui dont la barbe touffue descend comme un manteau sur son épaule nue, quand la Grèce perdait tant de sang, de guerriers, qu'à peine les berceaux en gardaient pour les mères fut augure, et c'est lui qui, pour les grandes guerres, avec Calchas, donna l'ordre d'appareiller. Eurypyle est son nom. Telle ma muse tragique l'a nommée dans un coin de mon poème épique. Tu le sais bien, puisque tu le sais tout entier. Cet autre chancelant sur sa hanche amaigri, c'est Michel Scott, passé maître en sorcellerie, et qui de la magie a vraiment connu l'art. Vois Guido Bonatti, vois Hudson, qui regrette d'avoir abandonné son cuir et sa navette. Mais hélas, l'imprudent, il se repent trop tard. Vois ces femmes plus loin, à leurs mains meurtrières, l'aiguille et le fuseau répugnés. Les sorcières avec l'herbe et la cire ont fait œuvre d'enfer. Mais viens, tes jacquins, son fagot sur l'épaule, occupe les confins de l'un et l'autre pôle. Au-dessous de Séville, il a touché la mer. Hier déjà, la lune en son plein était ronde. Tu dois t'en souvenir. Dans la forêt profonde, l'astre plus d'une fois t'a prêté du secours. Ainsi parlait Virgile, et nous allions toujours.